Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié?
Vous souhaitez suivre une formation technique, digitale ou de gestion?
Faites-vous accompagner financièrement pour gagner en compétences et en compétitivité.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC.
L'église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir et bienvenue dans l'église d'aujourd'hui. Comme vous le savez, tous les samedis soirs, nous parlons de religion après l'afterfoot sur RMC, grâce à cette émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Et ce soir, on parle justement de Monaco, parce qu'aujourd'hui, c'était un jour de fête, c'était la fête nationale à Monaco. Et pour en parler, je reçois le père Christian Vénard, qui est le directeur de la communication du diocèse de Monaco. Bonsoir, mon père.
Bonsoir, Matteo.
Bienvenue. Qu'est-ce qu'on a fêté aujourd'hui à Monaco?
Alors, le 19 novembre, c'est techniquement ce qu'on appelle la fête du prince, qui est aussi la fête nationale. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du 14 juillet en France, mais pour la principauté de Monaco, qui, comme le savent sans doute tous nos auditeurs, est un État souverain, donc un État plein et entier, même si c'est un micro-État, une cité-État, hein, 2,5 km.
C'est la deuxième carré, plus petit hein, État
oui,
du monde, non
voilà, après le Vatican, 38 000 habitants. Donc voilà, on reste modeste par la taille, mais grand par la réputation, ne serait-ce que sur sur RMC. On ne va pas dire le contraire. Hein. Et donc nous avons alors cette fête nationale, elle n'existait pas en fait au départ pendant très très longtemps. La grande fête de Monaco, c'était la Sainte Dévote, qui reste la deuxième fête.
Qui est le 27 janvier.
Exactement, mm-hmm. Le 27 janvier.
Qui est la sainte patronne de Monégasque,
qui est la sainte patronne de Monaco, des Monégasques, de la Corse aussi, on la partage un peu avec nos cousins corses. Et puis, qui est la sainte patronne de la famille princière. Mm-hmm. Et puis, à la fin du 19e siècle, vous savez, à la faveur des mouvements historiques un peu nationaliste, tous les pays voulaient revendiquer, donc dans beaucoup de pays, il y a eu l'importance de cette fête nationale, et donc c'est sous le prince Charles III qui a eu l'idée de créer une fête. Alors cette fête, elle est d'abord éponyme avec le nom du prince, donc pendant très longtemps ça a été à la Saint-Charles, avec par exemple le Charles III quand elle a été créée, et puis plus récemment c'était au moment de la Saint-Régnier, donc le 19 novembre, et quand le prince Albert II, qui est actuellement notre souverain, est monté sur le trône à la mort de son père, il a souhaité la Saint-Albert, c'est le 15 novembre, donc ça change pas beaucoup de toute façon au niveau des dates.
Quatre
et lui
jours.
Il a souhaité par hommage et par respect pour son père que soit maintenue la date du 19.
Alors, mais justement, c'est un peu étrange vu de France le fait que on célèbre une fête nationale avec une occasion qui est finalement quelque chose d'ecclésial, de religieux.
Alors, en effet, parce que dès la première fête du prince à Monaco, dès la première fête nationale, ce qui marque d'abord l'ouverture de la fête nationale, c'est une messe.
Voilà.
C'est une messe avec un Te Deum, donc une grande messe solennelle. Donc ce matin, ce 19 novembre, la messe est présidée par l'archevêque de Monaco. Souvent le nonce pour Monaco vient de Rome pour représenter directement il représente le pape. Il y a évidemment toutes les hautes personnalités monégasques. Il y a des invités étrangers. Hein. Cette année, on peut noter par exemple en particulier le général Puga, qui est un peu, si j'ose dire, le grand patron de la Légion d'honneur en France. Il y a aussi une frégate espagnole, il y a aussi un navire français qui seront présents, donc il y a des invités extérieurs. Et donc la fête nationale commence par cette messe solennelle célébrée dans la cathédrale, une cathédrale qui est dédiée à l'Immaculée Conception, avec des images vraiment très belles. Il y a évidemment le philharmonique, hein, l'orchestre philharmonique de Monaco qui vient accompagner cette messe, la maîtrise de la cathédrale. Cathédrale, le grand orgue qui est mondialement connu. Donc il y a un répertoire musical extraordinaire qui est joué, et la messe.
Donc il y a une relation religieuse et étatique, si on veut, parce que d'ailleurs la cathédrale est à quelques mètres du palais princier des mémoires sur le rocher. Et comment ça s'explique cette relation entre l'Église et l'État?
Si forte. Alors ça s'explique. Je termine juste sur la journée de la fête nationale,
hein, parce
que c'est pour que nos éditeurs. Donc il y a après la grand-messe, il va y avoir un moment une prise d'armes dans la cour d'honneur du palais où sont récompensés un certain nombre de militaires monégasques. Et puis après il y a le défilé en présence de la famille princière qui est sur les images célèbres dans les magazines People. Toute la famille princière est au balcon et les monégasques qui sont là pour acclamer leur souverain. Et puis le soir, au moment où nous nous parlons, un grand gala. En général, c'est un opéra qui est donné à ce moment-là. Alors, pour répondre à votre question, cher Matteo, en effet, pourquoi il y a ce lien avec la religion ? Parce que, tout simplement, si j'ose dire, Monaco est un des derniers états confessionnel. Alors, l'ancien des états confessionnels,
qu'est-ce
on en
que
connaît.
Ça veut dire
voilà. Ça veut dire un état qui dit qu'il a l'état en lui-même adhère à une religion. Alors, on a en tête assez facilement des états islamiques. J'insiste sur le islamique, pas islamiste, hein,
oui,
islamique.
Bien,
donc, des états pour, dans lesquels, notamment, on peut penser, par exemple, au royaume, les différents royaumes en Arabie, et donc, qui professent l'état et professent l'islam. Il y en a eu beaucoup à une certaine époque, chrétiens, protestants ou catholiques, ou chez les
anglicans,
orthodoxes aussi,
ouais.
Ou anglicans, par exemple, ouais. En Angleterre, mais c'est plus le cas, par exemple, en Angleterre, depuis sous la reine. Il a été décidé que ça n'était plus la religion de l'État. Et Monaco est un des derniers États où la confessionnalité de l'État est catholique. L'État est catholique, c'est l'article 9 de la Constitution monégasque, puisque nous sommes dans une monarchie, mais dans une monarchie constitutionnelle. Donc il y a une constitution, elle a été accordée par les princes à la fin du 19e siècle. Alors nous vivons un régime monarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul souverain, et c'est pas le peuple, contrairement en France. En France, le peuple est souverain, élit ses représentants, élit au suffrage universel un président de la République.
Alors qu'à Monaco, le souverain. Hein
le souverain, il est souverain de par la grâce de Dieu, comme le disent d'ailleurs encore aujourd'hui les ordonnances. Quand le prince signe une ordonnance, c'est nous, Albert II, prince de Monaco, par la grâce de Dieu. Et cette confessionnalité de l'État se décline à tous les niveaux, puisque, par exemple, le droit monégasque ne pourrait pas porter des éléments qui seraient contraires, j'allais dire, aux valeurs à la morale de la religion catholique. Très concrètement, par exemple, un autre élément qui peut être très surprenant pour nous, Français, parce que j'ai beau habiter monégasque, je suis de citoyenneté française, je suis résident monégasque de citoyenneté française. Bon, ça peut être très surprenant pour nous de savoir que, voilà, à la tête de l'État, il y a donc le prince qui gouverne, qui est souverain, l'aide dans cette tâche un ministre d'État, actuellement
monsieur le Premier ministre,
voilà, qui est l'un Premier ministre, monsieur Pierre Dartout. Et puis, le troisième personnage de l'État, c'est l'archevêque de Monaco.
Donc c'est un peu
en toute simplicité, voilà. C'est le troisième personnage de l'État.
C'est un peu comme si en France, voilà, le troisième personnage de l'État était
l'archevêque de
Paris, par exemple.
Absolument, ça pourrait être ça.
C'est très important, par contre, de faire une précision. Vous avez parlé de la confessionnalité de l'État monégasque, mais qu'il faut pas confondre avec la théocratie. Ce n'est pas une théocratie Monaco, n'est-ce pas ?
Non. Monaco, ben, je vous l'ai dit, il y a une constitution, le prince gouverne et chacun est dans son camp. Voilà, sur une antenne de sport, on sait ce que ça veut dire. Chacun joue dans son camp. Donc, le prince gouverne, il gouverne vraiment avec son ministre d'État. Alors, il y a une petite assemblée qu'on appelle le Conseil National, alors qui n'a pas de souveraineté. J'ai dit que le seul souverain, c'est le prince, mais il représente les monégasques. Ils sont élus, les conseillers nationaux sont élus par les monégasques et ils représentent et ils participent au travail législatif, comme l'Église. Quand il s'agit de questions éthiques, par exemple, on voit en France, par exemple, il y a des gros débats autour de la fin de vie, des débats aussi parfois autour de l'avortement, de toutes ces questions-là. Donc l'Église est consultée de manière tout à fait normale, officielle, par le gouvernement princier, par le Conseil national. Je dis nous, là, au nom de l'Église, nous participons de ce travail où, par exemple, dans une période assez récente, on a été consulté sur la question du travail du dimanche.
Oui.
Voilà, il y avait des tas de débats à Monaco pour savoir est-ce qu'on allait accepter. Donc, ça n'est pas du tout une théocratie. Hein. Chacun joue bien dans sa partie. Et d'ailleurs, concrètement, l'archevêque de Monaco n'est pas choisi par le prince. C'est comme en France, c'est le pape qui évidemment prévient le prince en disant nous avons pensé à telle personne
et le prince ne peut pas choisir une préférence pour tel ou tel candidat.
Non. Il y a peut-être un élément aussi important à préciser pour nos auditeurs. C'est que la confessionnalité de l'État, en tout cas dans un État catholique, ne veut pas dire que d'autres cultes n'existent pas.
Oui.
Nous avons à Monaco des églises orthodoxes, nous avons à Monaco un temple protestant, nous avons une synagogue. Mais ça veut dire que, par exemple, ces cultes ne peuvent pas s'exprimer publiquement sans l'accord de l'Église catholique.
D'accord.
Voilà. Pour raconter de manière amusante.
Par exemple, oui,
concrètement, nos frères orthodoxes, au moment de Noël, doivent débuter la cérémonie à l'extérieur. Et donc, tous les ans, le ministre de l'Intérieur de Monaco envoie envoie un courrier à l'archevêque de Moscou en disant les orthodoxes demandent est-ce qu'ils peuvent commencer à l'extérieur, et l'archevêque répond évidemment oui à cela. Et non seulement donc la confessionnalité de l'État, et ça peut nous surprendre à nous Français qui sommes tellement habitués à la laïcité en disant mais s'il n'y avait pas la laïcité ce serait l'horreur, etc. Mais en plus je vais même aller plus loin, je pense que la confessionnalité de l'État respecte plus encore la liberté de conscience. C'est-à-dire le fait que l'État dise je reconnais que la religion existe, puisque moi-même j'en confesse une, le catholicisme, ça veut dire que je reconnais tout à fait que ceux qui habitent dans mon État puissent avoir une religion, que cette religion puisse être différente de celle de l'État, voire même, et là on parle de liberté de conscience, que je puisse ne pas avoir de religion, que je puisse dire des... Alors, tout ça est encadré, évidemment, vous ne pouvez pas à Monaco, mais d'ailleurs pas plus qu'en France, vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi sur le prince ou, par exemple, en France, sur le président de la République.
Oui, il y a des limites qui sont prévues par la loi. D'ailleurs, je rappelle aussi que Monaco fait partie de toute une série d'organisations internationales, oui. Et qui donc se conforment au droit international. Donc, on vit quand même très bien, même sans avoir la laïcité imposée.
Mais oui, on vit très bien, et on vit très bien avec
tout
un souverain
de règles internationales aussi.
Pour le dire avec d'autres mots, on peut parfaitement professer la catholicité et être un État ultra-moderne, ce qu'est Monaco. Vous savez peut-être que Monaco...
Il y a effectivement un peu une dichotomie entre ce qu'on peut penser de l'Église, une institution qui quand même a 2000 ans. On peut se penser ce qu'on veut de l'Église, mais celle catholique a 2000 ans et celle orthodoxe aussi. Les protestants sont un peu plus jeunes, par exemple. Mais... on peut se dire, voilà, un État qui est confessionnel, donc lié à quelque chose de très ancien, mais très moderne en même temps, parce que déjà, quand on arrive à Monaco, on voit qu'il y a des choses...
Beaucoup de gratte-ciel, voilà. Trop, au goût de certains.
Mais aussi, tout un engagement, par exemple, vis-à-vis de l'environnement.
Dans l'écologie, bien sûr. Et puis, peut-être...
Protection de l'océan.
Oui, ce qui est peut-être moins connu aussi, Monaco veut se placer comme un des États les plus modernes et les plus pointus sur tout ce qui est le monde de l'Internet. Mm-hmm. Et parce qu'on sait aujourd'hui qu'en termes de géostratégie, vous avez évidemment la superficie géographique d'un pays, mais la superficie numérique d'un pays peut être tout à fait, et dans le cas de Monaco c'est le cas, inversement proportionnelle à sa superficie géographique. Et donc Monaco veut vraiment se placer dans les pays en tête, hein, dans les 10 premiers pays au monde en termes de superficie numérique, investit énormément sur ce sujet. Et d'ailleurs nous-mêmes, Église de Monaco, diocèse de Monaco, nous rentrons dans cette démarche-là, puisque nous sommes une église officielle, hein. Les prêtres de Monaco sont des fonctionnaires de l'État. Parfois, pour rire,
comme Alsace, en Alsace-Lorraine.
Un peu comme le système concordataire en France, donc en Alsace-Lorraine ou en Moselle. Et j'ai l'habitude de dire, mais bon, nos auditeurs comprendront qu'il y a un petit paradoxe, mais que l'église de Monaco est une des églises les plus pauvres du monde. Alors en fait, nous avons beaucoup de chance parce que le gouvernement princier met à notre disposition, notamment dans des moyens de communication assez extraordinaires que beaucoup d'églises nous envient, mais c'est vrai que, pour le dire en souriant, même le stylo qu'utilise l'archevêque ne lui appartient pas, mais appartient au prince, pour le dire en souriant. Donc, il y a ce côté, voilà, ce côté-là. Mais donc, nous mettons nous aussi nos pas dans ce grand programme qui s'appelle Monaco Extended, qui est un programme de vraiment d'entrer dans l'ère numérique pour toute la principauté de Monaco.
Et je rappelle d'ailleurs que le diocèse de Monaco, effectivement, produit toute une série de vidéos et d'autres contenus audio et radio. Et naturellement, il propose aussi cette émission, oui. Donc l'Église d'aujourd'hui, qui existe, je rappelle, depuis 1966, quand RMC, Radio Monte Carlo, était encore à Monaco.
Et oui, à l'époque, les programmes, d'ailleurs, commençaient par la prière le matin et se terminaient le soir par la prière du soir sur l'antenne
donc,
de RMC.
En réalité, cette radio est née aussi pour la capacité de regarder vers la modernité de Monaco.
Oui.
Donc, tout en restant en état confessionnel.
Tout en restant, absolument. Et ça, c'est vraiment un des éléments... Notre souverain, le prince Albert II, dans son discours d'intronisation, a eu cette phrase que je trouve très belle. Monaco veut être une société modèle et un modèle de société. Et donc, si on parle d'un modèle de société, évidemment, surtout à notre ère contemporaine, ça veut dire que cette catholicité de l'État ne va non seulement pas empêcher le respect des personnes, le respect des lois, l'écologie, on en a parlé, enfin, tous ces éléments-là, mais au contraire, j'allais dire, c'est une pression supplémentaire pour être le mieux possible dans tous ces domaines. On voit bien qu'il y a des rapprochements avec, par exemple, quelqu'un comme le pape François, pour qui le thème de l'écologie est un thème majeur. On voit aussi qu'il y a des rapprochements...
Et à Monaco, on a commencé avec le musée océanographique depuis plus de 100 ans.
C'est vraiment vraiment ça, c'est une volonté permanente de notre souverain de s'engager partout où Monaco le peut, à la hauteur de ce qu'est Monaco aussi, hein, qui n'est pas la France, qui n'est pas les États-Unis ou la Chine, hein, mais à sa juste place, vraiment de participer au mieux à cette défense de notre planète, à une prise de conscience des êtres humains, de la fragilité aussi de ce qui nous entoure et du respect qui lui est dû. Et donc on rejoint tout à fait, par exemple, donc les préoccupations de quelqu'un comme le pape François, ou par exemple sur des sujets qui concernent tout le pourtour méditerranéen, où Monaco est directement concerné. On est sur les bords de la Méditerranée et se veut un des États, j'allais dire, majeurs dans la promotion du dialogue, notamment entre les rives sud et les rives nord de la Méditerranée. Et ce sont autant d'enjeux internationaux dans lesquels Monaco, alors d'autres en parleraient mieux que moi, ce sont pas mes fonctions, mais dont je peux quand même témoigner pour quand même suivre de près, de fait, de mes fonctions, toute l'actualité monégasque. Vraiment, Monaco investit beaucoup sur cette dimension internationale et sur le rôle que Monaco a, avec modestie, mais non moins avec force, entend jouer sur la scène internationale.
Disons que l'engagement de Monaco sur la scène internationale est indirectement proportionnel à sa taille.
Donc, on est vraiment dans cette idée que au-delà de la taille de Monaco, Monaco, c'est aussi pour des millions et des millions de personnes dans le monde, c'est toute une image et qu'on ne peut pas réduire, en tout cas nous cherchons en termes de communication à bien le montrer cela, qu'on ne peut pas uniquement réduire aux paillettes, aux strass et au monde des super milliardaires qui viennent à Monaco. C'est une partie de Monaco, on va pas la nier, hein, ça fait partie de Monaco, cette vie de des gens les plus riches de la planète avec qui viennent pour différentes raisons, mais réduire Monaco à cela, ce serait, je crois, injuste. Hein, et il y a vraiment une volonté, d'abord parce qu'il y a des milliers d'habitants à Monaco qui ne sont pas milliardaires, j'en fais partie, hein, et donc qui vivent des vies tout à fait normales, alors dans un contexte particulièrement agréable, celui que nous offre la principauté, mais qui vivent des vies tout à fait normales. Et puis, il y a vraiment cet engagement profond de Monaco sur beaucoup de plans, y compris Monaco a parfois été très critiqué en disant oui, c'est une espèce de paradis fiscal, etc., etc. Or, Monaco fait partie des États qui essayent le plus de collaborer justement avec les grandes instances internationales dans la lutte contre les différents trafics que nous connaissons.
Une dernière question, parce que malheureusement le temps à notre disposition n'est pas infini, mais quelles sont les autres traditions rapidement religieuses de Monaco qui marquent un peu l'année, l'année monégasque?
Donc aujourd'hui, nous avons fêté la fête nationale, donc assez rapidement finalement, nous allons avoir donc la sainte dévote, notre grande sainte patronne nationale. Et puis nous aurons vécu, c'est dans un mouchoir de poche, le 8 décembre, qui est la troisième grande fête religieuse, parce que la cathédrale de Monaco est dédiée à l'Immaculée Conception. Donc, et pour les catholiques, c'est la grande fête le 8 décembre, avec une procession qui se fait sur le rocher, parce que la Vierge Marie a protégé Monaco de la peste au XVIe siècle. Donc depuis, il y a cette procession pour remercier la Vierge Marie de cela. Et nous allons trouver aussi dans les grands moments la Semaine Sainte, avec là aussi une procession. Alors c'est très dans le style méditerranéen, nous sommes méditerranéens à Monaco, qu'on appelle la procession la procession du Christ mort, hein, donc une procession sur le rocher très belle, avec des voilà, on représente le Christ, donc qui est une grande statue de le Christ allongé qui est porté par des pénitents, avec les soldats romains, avec les chevaux, etc. Et puis il y a une autre fête, alors qui est au début de l'été, qui est au moment de la Saint-Jean-Baptiste, et puis de la fête Dieu, où là aussi, il y a une grande procession, il y a une grande messe, et puis il y a une grande procession qui place. Alors, on a ce qu'on appelle un reposoir sur la place du palais, selon l'usage pour cette procession eucharistique, on porte le Saint-Sacrement, c'est-à-dire l'hostie consacrée pour les chrétiens, c'est-à-dire pour nous, Jésus qui s'est fait pain pour nous, et on passe devant la place du palais, et là, l'archevêque bénit le palais et le prince qui assiste habituellement, si son emploi du temps le lui permet, mais qui habituellement assiste avec sa famille à cette procession. Donc on voit vraiment que ce catholicisme, il irrigue. Moi, il y a une formule que j'aime beaucoup, que j'utilise très volontiers, c'est le catholicisme fait partie de l'ADN de Monaco. Voilà, ça n'est pas tout Monaco. Monaco ne se réduit pas à son catholicisme, et ce serait ridicule de vouloir réduire Monaco à son catholicisme, mais c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de Monaco, et Monaco sans le catholicisme, ce serait plus tout à fait Monaco.
Je vous remercie, Père Christian Vénard. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication du diocèse de Monaco. Donc, vous proposez cette émission sur RMC.
Avec une immense joie.
Merci beaucoup. Tous les samedis soirs après l'After Foot sur RMC. Je vous donne rendez-vous justement à samedi prochain, toujours après minuit. Et je vous laisse à la programmation de la nuit de RMC. Bonne nuit.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.